journal, Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Splendeur et misère du Front National devenu Rassemblement National à la une. Les caisses sont vides. Un tiers des permanences départementales ont dû fermer. C'est une information France Inter. À la une également, le destin d'Idleb entre les mains des Turcs, des Russes et des Iraniens. Aujourd'hui, réunion cruciale à Téhéran pendant que les habitants de la province syrienne redoutent toujours le pire. Trump à la chasse à la taupe au lendemain de la tribune du New York Times. Heureusement, il lui reste quelques amis chez Fox News. Des assistants médicaux pour décharger les médecins en France. Une idée pour le plan santé. À 8h20, vous vous penchez sur la crise de la psychiatrie, Nicolas.
Oui, l'invité de France Inter est Marion Leboyer. Elle publie Psychiatrie, l'état d'urgence. C'est aux éditions Fayard. Vous pourrez dialoguer avec elle vers 8h30, 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, Booba et Caris sur le même flot. Un an avec sursis requis contre eux au tribunal de Créteil cette nuit. La naissance d'un grand gardien des Bleus, Alphonse Areola, impérial face à l'Allemagne hier soir. Et puis le 18e album de Paul McCartney, c'est bon, vous allez l'entendre, le son des Beatles n'est pas loin.
France Inter.
Elle fait sa rentrée sur les décombres du parti. Marine Le Pen passait du second tour de la présidentielle à la gestion de la banqueroute du Rassemblement National. 2 millions d'euros saisis avant les vacances, pas d'université d'été. Le parti est en train de disparaître de certains territoires. C'est une information que vous nous révélez ce matin, Maxence Lambrec.
Dans cette France des oubliés qu'elle aimerait incarner, Marine Le Pen est en train de perdre tous ses relais. Un tiers des permanences départementales ont fermé. Plus aucune vitrine dans la Manche, les Vosges, encore dans le Morbihan. Les fédérations ont en moyenne perdu la moitié de leurs adhérents en un an. Et depuis cette saisie judiciaire cet été, le siège ne leur reverse plus un centime. Impossible donc de payer les loyers. Le parti est à l'AREM, confirme un cadre. Plus aucune affiche, pas le moindre tract, rien. On arrive à peine à payer les salaires. Ça représente près de 250 000 euros par mois. Et c'est beaucoup trop aux yeux de la direction. Mais on n'a même pas d'argent pour payer les licenciements, se désole un élu. Alors les goodies, les drapeaux, les porte-clés, on oublie. Et ça n'a rien à donner pour un parti qui vient de changer de nom, qui aurait besoin d'afficher partout sa nouvelle marque. Vous me direz que ce n'est pas la première fois que Marine Le Pen se victimise ainsi. Bien sûr, mais un signe ne trompe pas. Quand certains de ses fidèles, comme Jordan Bardella ou Kevin Pfeiffer, commencent à payer eux-mêmes leurs tracts et leurs allers-retours en train, c'est qu'il n'y a vraiment plus rien dans les caisses.
Maxence Lambrec, Marine Le Pen qui fait sa rentrée politique à la foire agricole de Châlons en Champagne aujourd'hui à défaut d'université d'été. Le Rassemblement National à sec, on fait les comptes sur franceinter.fr.
Et dans la majorité, c'est une belle bataille en interne.
La bataille du perchoir qui sera soldée lundi avec le choix du candidat La République En Marche pour succéder à François de Rugy, parti remplacer Nicolas Hulot. Ce devait être une formalité pour Richard Ferrand. Finalement, c'est beaucoup plus compliqué que prévu. Barbara Pompili, l'ancienne des Verts, dit ce matin avoir toutes ses chances, elle y croit. On l'entendra peut-être un petit peu plus tard. C'est un sommet déterminant pour la province d'Idleb en Syrie. Son sort va se jouer aujourd'hui à Téhéran, entre l'Iran et la Russie d'un côté, alliés du régime de Bachar el-Assad, la Turquie de l'autre, qui soutient les rebelles, alors que l'offensive se prépare sur place, redoutée par les 3 millions d'habitants de la province. Écho de la peur recueillie par Laure Stéphane à Beyrouth.
Tenter de fuir ou bien rester sur place en attendant l'offensive, voici des jours que Youssouf Ibrahim, déplacé en territoire insurgé dans la ville de Rum al-Kubra, près de la province d'Idlib, se pose la question.
Je ne sais pas ce que je vais faire. Je crois que je vais essayer d'aller vers les zones du nord de la Syrie sous contrôle turc, comme Afrin. À moins que je ne décide de rester sur place et de faire face à mon destin. Je n'ai pas encore réussi à prendre ma décision.
Des centaines de personnes ont fui de la zone d'Idlib depuis mercredi soir, soit vers les territoires sous contrôle turc, soit vers la frontière avec la Turquie, près de laquelle se trouvent des camps de réfugiés bondés. Une frontière fermée que Youssouf Ibrahim a essayé de faire franchir à sa famille, mais impossible, trop coûteux et trop dangereux. Ce jeune Syrien redoute d'être aux premières loges si l'offensive est lancée.
Bien sûr, notre ville est concernée par la possible offensive sur Idlib. Là où nous sommes, c'est plus dangereux qu'à l'intérieur d'Idlib, car nous sommes plus proches de la ville d'Alep, sous contrôle du régime. On est sur une ligne de front. On est à portée de tir de l'artillerie du régime, sans parler des frappes aériennes.
Hier, c'est sur le sud-est de la province d'Idlib que les forces pro-régime ont mené des bombardements aériens. Les Russes affirment vouloir venir à bout des djihadistes présents dans la zone d'Idlib, une zone où vivent près de 3 millions de civils, selon l'ONU. Beyrouth, Laure Stéphan, France Inter.
Et à Téhéran, les deux camps par alliance vont tenter de s'entendre pour éviter le bain de sang, les Russes et les Iraniens, face à la Turquie, en première ligne du conflit, Claude Guibal.
Avec cynisme, on pourrait comparer la guerre en Syrie à une gigantesque partie d'échecs aussi cruelle que sanglante. Et la Turquie y joue peut-être aujourd'hui son coup le plus sensible. Il y a un an, en effet, après des mois de tensions, la Turquie, qui soutient des groupes rebelles, signait des accords avec la Russie pour faire de la province frontalière d'Idlib une région épargnée par les combats. Le but, préparer des zones en espérant y renvoyer une partie des 3 millions de réfugiés syriens présents sur le sol turc. Charge à la Turquie d'y faire le ménage, entre guillemets, en se débarrassant des groupes djihadistes repliés dans cette région où ont aussi été évacués les rebelles et les civils des territoires reconquis par le régime syrien. Mais en cas d'offensive sur Idlib, ce sont à l'inverse des centaines de milliers de nouveaux réfugiés qui vont affluer vers la Turquie. Une pression insupportable pour Recep Tayyip Erdogan. En froid avec les États-Unis, la Turquie est aujourd'hui affaiblie. Elle est très vulnérable aux pressions de Moscou qui veut ainsi l'obliger à participer à la liquidation des dernières poches de résistance. D'où ses efforts désespérés pour tenter d'empêcher le déclenchement de cette bataille aux conséquences humanitaires et politiques incalculables.
Sommet crucial à Téhéran. Aujourd'hui s'ajoute une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Au Brésil, le candidat de l'extrême droite à la présidentielle, favori des sondages au premier tour, a été poignardé cette nuit en plein meeting, gravement blessé au ventre. Son agresseur a été arrêté. Il dit avoir attaqué Jair Bolsonaro sur ordre de Dieu et pour des motifs personnels. C'est un ancien militant de la gauche brésilienne.
Il est 8h07, Florence. Qui est la taupe ?
La chasse est ouverte à la Maison-Blanche au lendemain de la tribune dévastatrice et anonyme publiée dans le New York Times, signée par un haut cadre de l'administration Trump, entré en résistance contre le président et son incapacité à gouverner. Mais Trump peut toujours compter sur sa base. 10 000 personnes venues l'écouter en meeting dans le Montana hier soir. Et puis, il lui reste aussi quelques amis dans les médias, à Fox News notamment, toujours fidèle, Loïc Loury.
Fox News à la rescousse de Donald Trump. La chaîne n'a peur de rien pour soutenir son président. Donner la parole notamment à Gina Loudon, connue comme Dr. Gina.
Mon livre utilise la science, des données vérifiées et des théories psychologiques prouvées. Et il montre que ce président est sans doute la personne la plus sage à avoir jamais occupé la Maison-Blanche.
Donald Trump n'est donc pas fou. La chaîne reprend d'ailleurs ses arguments. L'auteur de la fameuse tribune serait un lâche drapé dans son anonymat. Chuck Roca est analyste politique, démocrate et plutôt mesuré.
Je suis en désaccord avec 90% des positions de Donald Trump. Mais il reste le président. Il faut que le débat soit juste et ouvert. Il faut que ce débat soit accessible et pas caché dans l'ombre.
Mais Fox News fait surtout la part belle à la théorie du Deep State, un état dans l'état qui tenterait de renverser le pouvoir avec l'aide de médias menteurs et frustrés. C'est ce que soutient Sébastien Gorka, spécialiste des questions de sécurité.
Ils pensent toujours qu'Hillary devrait être présidente. Ils n'ont pas remporté l'élection et ils utiliseront tous les stratagèmes possible pour compromettre le président. Mais ils ne réussiront jamais, car Donald Trump ne laissera jamais tomber l'Amérique.
En attendant, bien sûr, le prochain round. New York, Loïc Loury, France Inter.
Et Donald Trump a hier soir de nouveau exigé que le New York Times révèle qui est derrière la tribune. En Italie, l'offensive de la moitié 5 étoiles du gouvernement de coalition, Luigi Di Maio, vice-président du Conseil, annonce ce matin le réexamen de tous les secteurs placés sous concession privée. Il cite les autoroutes, l'eau, les télécommunications et la télévision. Un an de prison avec sursis requis cette nuit contre les deux rappeurs cogneurs, Booba et Kaaris. Le parquet de Créteil les renvoie dos à dos. C'est Booba qui a porté le premier coup de pied, mais c'est Kaaris qui s'est levé pour aller au contact. C'est pas moi, c'est lui, ont entonné les deux artistes. Valentin Dunat.
À vrai dire, d'un côté comme de l'autre, les positions n'ont pas changé d'un iota depuis cette bagarre à l'aéroport d'Orly. Pour Booba et ses avocats, c'est l'autre bande qui a lancé les hostilités. Pour Kaaris, c'est tout l'inverse, maître Yassine Yakouti.
Il est resté sur cette position, il n'a pas varié d'une virgule depuis le début de cette affaire. Il est mis dans une situation, vous avez pu voir les vidéos, où cette situation, cette prise de contact n'est pas à son initiative.
Dans cette affaire, finalement, c'est toujours la faute de l'autre. Alors pour mettre tout le monde d'accord, le procureur a considéré que cette confrontation physique était fortuite, qu'elle n'avait pas été provoquée et que finalement ces deux rappeurs étaient victimes. victimes de leurs personnages. Louis Jésus est sociologue du rap. Il a assisté aux 12 heures d'audience.
Les prévenus ont envie de rester dans ce rôle de chef de bande, d'homme un peu dur, quoi. En revanche, les réquisitions du procureur, pour moi, elles font aussi ce jeu-là, puisque finalement, ce que dit le procureur ce soir, c'est qu'il faut apaiser les tensions entre deux bandes rivales. En fait, il ne propose pas de juger les faits, il propose d'apaiser les tensions entre des bandes rivales. Donc quelque part, les propos du procureur alimentent encore cette image de deux rappeurs qui sont des chefs de bande. Je crois que ça convient assez bien à Caris Abouba finalement.
Les deux hommes et leur clan sont partis, chacun dans leur coin. Il était 2h du matin.
Jugement le 9 octobre. En attendant, leur contrôle judiciaire est levé, ce qui veut dire que Booba va pouvoir rejoindre sa famille qui vit à Miami. Se sont-ils entendus sur les prix? C'est interdit. 12 perquisitions hier chez Schneider et Legrand, entre autres. Serait-ce la découverte d'un cartel du matériel électrique, Sarah Guibaudot?
C'est un contrôle de la toute nouvelle agence anticorruption qui a permis de découvrir de curieuses pratiques de facturation. 4 entreprises de matériel électrique sont soupçonnées d'avoir formé un cartel. Les fabricants Schneider et Legrand et les distributeurs Sonepar et Rexel se seraient mis d'accord pour fixer un niveau de prix et limiter le jeu de la concurrence. Mais l'affaire va peut-être plus loin. L'autorité de la concurrence a transmis le dossier au parquet de Paris qui a ouvert en avril une information judiciaire sous les chefs d'entente illicite mais aussi de blanchiment de fraude fiscale et de corruption d'agents publics et privés. Pas de commentaire hier soir chez les sociétés concernées. Schneider indique juste collaborer avec la justice. En 2007, le groupe avait été condamné avec d'autres par la Commission européenne dans une précédente affaire d'entente sur les prix. Cela concernait des équipements pour centrales électriques.
Et si les médecins étaient déchargés de leurs tâches les plus fastidieuses pour s'occuper davantage des patients? Voilà une idée pour le plan santé qu'Emmanuel Macron annoncera le 18 septembre, proposé par le syndicat généraliste MG France. Ces assistants médicaux financés par la Sécu pourraient bien voir le jour, Véronique Julia.
Le profil de l'assistant médical reste à définir. Selon les besoins, il pourrait faire du secrétariat ou plutôt de l'accueil et des premiers soins, la prise d'une tension ou la réalisation d'un électrocardiogramme. Le syndicat de médecins MG France voudrait un assistant pour au moins 2 généralistes et une prise en charge par l'assurance maladie de 50 000 euros par an et par cabinet. Le calcul est vite fait. S'il faut 20 000 assistants, la dépense atteint le milliard. Objectif, rendre du temps médical au médecin qui pourra du coup recevoir plus de monde chaque jour en cabinet. Jacques Battistoni préside le syndicat MG France.
Augmenter le temps médical disponible, c'est pour un médecin avoir quelqu'un qui va l'assister au moment de sa consultation, accueillir le patient, recueillir des informations. Ça se fait ailleurs. Dans les autres pays, quand vous allez voir un médecin généraliste, en général, vous êtes accueilli par un assistant médical. C'est valable en Angleterre, c'est valable en Allemagne, c'est valable dans les pays du Sud. Ça se fait pas en France, il faut que ça se fasse en France maintenant.
D'après MG France, un médecin traitant peut suivre à peu près 1000 patients adultes chaque année. Avec un assistant, il pourrait en suivre au moins le double. Le coût de l'opération semble élevé, évidemment, mais le syndicat met en parallèle le coût non négligeable aussi des recours nombreux aux urgences liés au manque de praticiens.
Des assistants médicaux pour soulager les médecins, c'est aussi sur franceinter.fr. C'était l'une des fameuses moustaches d'Hollywood. L'acteur Burt Reynolds est mort hier soir à l'âge de 82 ans. On s'en souviendra dans Deliverance et dans Boogie Night. Et puis aussi, il faut le reconnaître, dans pas mal de nanars. Il était l'un de mes héros, un pionnier à saluer, entre autres Arnold Schwarzenegger.
8h13, pas flamboyant mais résistant, les Bleus face à l'Allemagne hier soir.
Match nul 0-0, on retiendra la formidable prestation du gardien remplaçant Alphonse Areola et ses 5 arrêts. Heureusement qu'il était là, titre l'équipe.
J'ai eu ce sentiment d'invincibilité et il faut surfer sur cette vague. Ouais, je profite de ces moments, là c'était Neuer en face, donc j'engrange de l'expérience et j'essaie de me mettre au niveau. Disputer des grands matchs comme ça, ça va me permettre de continuer à grandir, à prendre exemple sur les autres et prendre tout ça pour moi. Ça change beaucoup de choses. Après, c'est vrai qu'on sait ce qu'on doit faire. On sait que voilà, dans les matchs comme ça, dans les matchs internationaux, il faut être performant, présent, sinon ça paye cash. Et voilà, ce soir, je suis juste content de ce que j'ai fait, même si j'aurais espéré une petite victoire en bonus.
Alphonse Areola au micro de Guillaume Batin. Décrochera-t-elle son 24e trophée du Grand Chelem? Serena Williams en finale de l'US Open 6 mois après son retour difficile de maternité. Elle affrontera la japonaise Naomi Osaka pour qui ce sera la première finale à un niveau aussi élevé. Enfin, l'événement musical du jour, Nicolas. Et oui, c'est la sortie du 18e album en solo de Paul McCartney, 76 ans. L'album s'appelle Egypt Station. Mathieu Curleron, c'est du bon McCartney avec de vrais morceaux de Beatles ou presque.
À chaque écoute d'un nouveau disque de Paul McCartney, c'est toujours la même angoisse. L'ancien Beatles va-t-il nous faire du McCartney ? Et dès les premières notes de cette Deep Station, nous voilà rassurés. I got crows at my window, dogs at my door. Ce premier titre sonne d'ailleurs très Beatles et ressemble même un peu au morceau I've Got a Feeling sur l'ultime album du groupe sorti en 1970. Le génie mélodique de McCartney est ici à son apogée avec toujours, et c'est d'ailleurs un peu sa marque de fabrique depuis son premier album solo, une économie de moyens spectaculaire. I walked around angry. I used to feel bad. Les ballades, les fameuses Silly Love Songs de Maca sont au rendez-vous, mais on peut souligner également quelques morceaux légèrement plus audacieux, juste ce qu'il faut. Back in Brazil, she meets a man. Pour résumer, cette Deep Station est encore un très bon disque de Paul McCartney, qui à 76 ans sort peut-être son meilleur album depuis Chaos and Creation in the Backyard, sorti lui en 2005. That was right.
C'est bon quand même, hein.
Très.
On n'a pas tellement envie de l'arrêter.
Bah, on peut continuer un petit peu encore.
Tel que je vous connais, vous serez le 28 novembre prochain à la Défense Arena au concert de McCartney.
Avec vous, Florence Paracuelos.
Banco, banco.
Allez, 8h16, merci Florence Paracuelos pour ce journal.